Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine dédié au bien-être et au mieux vivre tous les jours, en direct de 11h à 12h30.
Et oui Mélanie, ici du lundi au vendredi, on vous parle de votre vie quotidienne, comment mieux consommer, mieux gérer votre vie de famille ou même votre boulot. Bref, on fait en sorte que vous vous sentiez bien dans vos baskets et dans votre tête.
Et Julia, ici, on conseille, on guide, mais on vous donne également la parole. Donc n'hésitez pas, on attend vos questions, celles que vous nous laissez au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou encore sur Twitter sur le hashtag Europe 1.
Alors au menu du jour, on va démarrer cette émission ce matin avec notre question rituelle et aujourd'hui c'est qui a dit que vieillir était un crime ? Et oui, on verra qu'il est possible de prendre de l'âge tout en douceur et on vous guidera dans cette voie-là. Alors que du positif car la confiance en soi n'a pas d'âge. Et pour en parler, nous recevrons la psychiatre Véronique Lefebvre des Noëttes.
Ensuite à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec tous les jours deux de nos chroniqueurs ce matin, Elsa Lévy, nous parlera de la mode du slow tourisme, une nouvelle façon de voyager qui séduit de plus en plus de gens depuis le Covid. Et puis le docteur Oren Marco, notre docteur beauty, sera également avec nous ce matin. Il nous parlera, je ne sais plus de quoi, il nous parlera de comment cacher les cicatrices.
Voilà, et enfin Mélanie, dès midi dans la partie santé de cette émission, on va parler d'un petit organe masculin dont on parle peu, pourtant tous les hommes en ont une, j'ai nommé
La prostate,
avec notre invité, le professeur François Desgrandchamps, chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis. Nous vous donnerons tous les meilleurs conseils pour vous, messieurs, pour la garder en bonne santé le plus longtemps possible, cette prostate.
Europe 1.
Voilà, vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre nouveau magazine pour être bien dans son corps, mieux dans son corps, dans sa tête, quel que soit votre âge. Parce qu'en fait, ce matin, Julia, d'une certaine façon, on va s'adresser à plusieurs générations en même temps. La génération qui est déjà entrée dans la force de l'âge et puis les autres, hein, chacun d'entre nous, qui allons vieillir évidemment plus ou moins rapidement. Alors, notre question ce matin est la suivante. Qui a dit que vieillir était un crime ?
Et oui, Mélanie, et les réponses qu'on va développer aujourd'hui par rapport à cette question vous intéressez, j'en suis certaine, le plus grand nombre. Et justement, lui aussi, pour nous aider à démarrer cette émission tous les jours, il va la poser, notre question du jour, au plus grand nombre dans la rue. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour les jeunettes, j'espère que ça va.
Ça commence bien.
Oui, j'ai eu très peur que vous me donniez la question sur la prostate pour partir dans la rue. Non,
j'ai eu
la question sur l'âge, ça arrivera effectivement. Je me suis baladé avec un petit micro. Je suis parti à la rencontre de personnes jeunes, un petit peu moins jeunes, et j'ai testé un petit peu pour voir s'ils avaient peur de mourir globalement.
La réponse principale, vous allez au bout du bout. Parce que vieillir
et de mourir, exactement. J'ai demandé les deux. Écoutez ça.
Alors déjà, c'est l'horreur quand on passe les 30 ans. Alors là, les 40 ans, moi, j'ai eu au mois de janvier et j'ai toutes les crèmes possibles et inimaginables pour le visage, le corps, voilà. C'est pas possible, je peux pas vieillir.
Alors effectivement,
vous lui avez dit que les crèmes, ça empêchait pas de mourir.
Ça empêche pas de mourir. Non, mais globalement, je me suis rendu compte en discutant avec eux que la peur, finalement, c'est la mort. Vieillir, c'est que ça nous rapproche petit à petit. Mais à quel âge, justement, on est vieux ? À quel âge on commence à avoir peur ? Ça, j'ai posé la question aux enfants.
50 ans, 46 ans,
dans les 70-80 ans,
60 ans,
oh, 27 ans.
27 ans.
Oh, eh ouais. Vous savez que beaucoup de gens très bien sont morts à 27 ans. C'est
énormément.
le club des 27.
Ouais. Beaucoup de chanteurs, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jim Morrison. Mais
ici, exactement. On donne tous les conseils pour que ça n'arrive pas.
Tout à fait. Oui, il y a aussi de très bons artistes qui sont vivants et qu'on embrasse évidemment. Non mais alors, mais je vous pose la question à vous. Tiens, à quel âge comme ça ? C'est une question piège. Ouais. Je vous avais pas prévenu. À quel âge, selon vous, on commence à être vieux ? Quel âge vous ferait peur, vous ?
Moi, à partir de 80, je commence à paniquer.
À 80.
Alors, du moment où on prend vraiment des tisanes tous les soirs pour dormir,
bah, ça je le fais déjà.
Moi aussi.
Non mais ça fait peur parce que alors je l'ai pas enregistré, mais un jour un enfant m'a quand même demandé. J'arrivais en moto et il trouvait la moto belle. Il devait avoir 8 ans et il m'a dit est-ce que quand j'aurai 14 ans et que vous serez mort, je pourrai la prendre ? Et je me suis dit, il me voit vraiment, donc j'ai 37 ans, comme une personne presque âgée. Donc je rassure tout le monde, il y a des techniques pour rester jeune, en voici quelques-unes.
Pour paraître plus jeune, c'est facile, ne pas boire, ne pas fumer, bien dormir, bien manger, bien sûr avoir une vie sociale trépidante. Moi je dirais que c'est le combo gagnant pour rester beau et jeune assez longtemps.
Alors,
c'est vrai,
bien,
c'est une bonne base, je crois. Hein,
du sport, une bonne vie sociale, bien manger. Après, il y a quand même des trucs galères quand on vieillit, mais ça fait partie de la vie.
Bon, déjà, ce qui est bien, c'est de vieillir. C'est quand même mieux que de mourir trop jeune. Donc, c'est une chance déjà de vieillir.
Ce qui doit être très difficile quand on vieillit, c'est de se retrouver avec des vieux.
J'ai adoré cette réponse.
Vous avez eu que des jeunes hein, dans votre
que
votre
des jeunes
trottoir,
évidemment, mais
c'est vrai.
Et j'ai eu des très très jeunes d'ailleurs. Je vais terminer avec ça, puisque on se demande souvent justement comment on fait quand on vieillit, comment ne pas vieillir. Il y a l'âge évidemment qui nous trahit parfois, mais quand on ne donne pas son âge, il y a des signes extérieurs de vieillesse.
Quand tu commences à avoir des rides.
Quand t'as les cheveux blancs.
Quand t'as un prénom composé, genre Jean-Luc, Jean-Pierre, oh. Jean-Martin.
Bah, quand on voit qu'il veut plus faire d'activité, il veut tout le temps rester chez lui.
Quand il regarde souvent la télé, les jeux que les jeunes ils regardent pas, ils disent que c'est nul.
Comme quoi ?
Question pour un champion. Quand il lise les journaux à part l'équipe.
Pourquoi à part l'équipe ?
Bah, parce que c'est du foot, enfin je sais pas. Ça, quand il manque de dents, il a un dentier et il a plus de dents du tout.
Quand il te demande de remettre genre le téléphone, la wifi, etc. Parce qu'il comprend rien.
C'est drôle.
Bah, quand il parle comme ça,
bonjour, je m'appelle Jean-Luc.
Voilà, on embrasse
Jean-Clément Michel.
Ouais, hein, Jean-Clément Michel, voilà, ils sont adorables.
C'est tellement drôle, ouais. Mais moi je demande tellement souvent à mon fils comment on fait avec la Wi-Fi et tout, donc je suis une vieille personne.
Pour lui, en fait, c'est ouais. La conclusion finalement, c'est qu'on est tous le vieux de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire bien que même sûr. À 80 ans, on sera le vieux de jeune de 85. C'est donc c'est pour ça, il n'y a pas de règle, vous sentez jeune.
Depuis l'année dernière, un peu moins, depuis que mon fils n'a pas voulu que je l'accompagne au collège, je me suis dit.
Ça n'a rien à voir. C'est l'âge, ça n'a rien à voir avec l'âge. Il y a un âge où normalement ils ont des parents. On s'éloigne de la barrière, faut faire le bisou de plus en plus loin, c'est normal. Ça
vous
rien
moquez
à
un peu de nous, mais vous avez peur de vieillir, Clément Lanoux ?
Non, moi au contraire, j'ai hâte de vieillir. En vrai, je trouve que j'ai quelques cheveux blancs sur les côtés et je me dis j'aurai une meilleure tête avec les cheveux vraiment tout grisonnants. Donc il me tarde, je profite. Mais non, je pense que je serai un vieux heureux.
Eh bien moi, je peux le dire, j'ai hâte de vieillir parce que j'aime beaucoup la compagnie des vieilles personnes parce qu'elles n'ont plus de filtre ces vieilles personnes. Est-ce que vous avez remarqué qu'au bout d'un moment, à partir d'un certain âge, on se lâche et on dit vraiment ce qu'on pense ?
C'est vrai, je me suis jamais fait autant draguer que dans une maison de retraite, c'est pas une blague. Je suis allé voir le grand-père de ma compagne et je suis passé un jour avec je sais pas, assurance. Je suis passé, j'ai poliment dit bonjour mesdames et ça gloussait et ma compagne m'a fait remarquer en me disant mais c'est incroyable, mais tu te fais draguer dans une maison de retraite et j'ai adoré.
Mais c'est vrai que vieillesse va rarement avec le mot, la notion amour, enfin, en tout cas l'oublie un petit peu, mais il y en a tellement on en a besoin. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tabous, Mélanie, je sais pas ce que vous en pensez autour de la vieillesse. Alors vous parliez des relations amoureuses, mais alors on en parlera tout à l'heure, mais en ce qui concerne le sexe, carrément, on a l'impression que ça n'existe pas. Pour moi, une vieille personne...
la ménopause, c'est terminé, on n'en parle plus.
Et l'andropause aussi, pour les garçons.
C'est un
pas
vrai,
vrai
sujet. Ah ben, la sexualité des personnes âgées, je ne peux pas vous en parler parce que je ne la maîtrise pas, mais en tout cas, je sais que c'est un vrai sujet. Et ce que je sais, pour avoir des amis qui travaillent dans des maisons de retraite ou avec des personnes âgées, c'est clairement qu'il y a de la drague, mais vous imaginez même pas comme ça drague dans des maisons de retraite. Je sais que ceux qui nous écoutent là se disent, ah mais oui, on retrouve parfois un homme qu'on a couché, hop, il s'est relevé pour aller faire un bisou à sa copine. De 88 ans dans le couloir d'en face.
Il paraît même qu'il existe dans certaines maisons de retraite des salles de rencontres.
Bien sûr, ça se développe et c'est très bien.
Bah,
et c'est bien fait pour eux.
Et c'est bien fait pour eux. Et ça donne envie d'être vieux, Mélanie.
Allez, très bien.
On va attendre un peu avant de vous inscrire, Julien. On attend.
Oui, d'accord, on attend un peu.
Merci Clément Lanoux. On vous retrouvera bien sûr demain avec un très grand plaisir. Mais alors, on va vraiment attaquer avec notre invité pour le coup, notre sujet du jour, comment vieillir en douceur. On va détailler cela avec notre invité dans un instant. Plusieurs solutions à vous donner pour ce fameux bien vieillir, car c'est quand même cela qu'on souhaite tous pour nous, pour nos proches. On va tout vous expliquer. Alors à tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre nouveau magazine Feel Good, bien-être et surtout bien vieillir. C'est tout ce qu'on vous propose et ce qu'on vous souhaite ce matin avec donc cette question qu'on décortique ensemble. Qui a dit que vieillir était un crime ? En tout cas, ça c'est sûr, pas nous dans ce studio. Non. Ni Clément Lanoux, ni Mélanie Gomez, ni moi-même, ça c'est certain. Et ce n'est pas non plus le cas de notre invité aujourd'hui. Nous allons recevoir au téléphone le docteur Véronique Lefebvre des Noëttes, qui est psychiatre de la personne âgée. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, le sous-titre de votre ouvrage « Vieillir n'est pas un crime », en fait, c'est pour en finir avec l'âgisme. Mais surtout, c'est quoi l'âgisme, précisément ?
Alors, l'âgisme, c'est une contraction de deux mots. C'est âge et racisme. C'est du racisme anti-âge, c'est-à-dire montrer du doigt, marginaliser ceux qui ont un âge qui nous paraît rédhibitoire.
Mmh. Alors, justement, docteur Lefebvre-Desnoëttes, c'est quoi, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est quoi la vieillesse ? À partir de quand on est vieux ? À partir de quand on est âgé ? Est-ce qu'il y a un âge repère ou pas du tout ?
Il n'y a pas d'âge repère. Hein. Votre reportage a bien montré, chez les enfants notamment. Moi, mon petit-fils me dit, il y a une vieille, il a 12 ans, une vieille de 15 ans qui m'a parlé. Hein.
Ouais. Bon. Ah oui, c'est rassurant, vous avez raison.
Voilà, et c'est tout à fait rassurant.
On vit de plus en plus vieux en plus, c'est quand même paradoxal, non, du coup, qu'il y ait de l'âgisme.
C'est très paradoxal et ça montre bien que notre société est à la très ambivalente. Avec le sujet âgé qui vieillit bien, qui est formidable, comme un Edgar Morin, bon, on le porte en exemple. Mais moi, mes grands vieux, et d'ailleurs vous remarquerez, on va dire les grands vieillards et les petites vieilles, hein, le champ lexical n'est pas le même, hein, eh bien, on ne les aime pas, ceux-là.
Clément Lanoux, vous l'avez...
Je reviens, pardon, sur l'âgisme, justement. Ça concerne aussi les jeunes. Si jamais je ne supporte pas ceux de, je sais pas, de 16 ans, c'est le même terme ou ça concerne que les personnes âgées ?
Non, ça concerne que les personnes
âgées. C'est que pour les personnes âgées, d'accord.
Et très âgées. Et je vais vous dire, en tant que médecin psychiatre et gérien, c'est à partir de 75 ans hein, qu'on commence à se préoccuper des personnes très âgées vivant avec handicap.
Docteur Lefebvre,
c'est loin d'être le cas.
Des Noëttes, comment on doit parler d'ailleurs? Parce qu'on va le dire tout de suite, hein, parce qu'on a l'impression que c'est tabou, on n'ose pas dire vieux. On doit les appeler comment? Les seniors, les vieux, les personnes âgées? Vous avez même dit le sujet âgé. Comment on a le droit de les nommer sans vexer personne?
Ben, je pense que les vieux, c'est une belle expression. C'est une expression pleine de tendresse quand il s'agit de nos aînés. Mm-hmm. Les seniors, c'est autre chose. Hein. C'est les baby-boomers, les papy-boomers. Hein. C'est issu du monde du sport. Dynamique, autonome, ils revendiquent une autonomie de vie. Hein.
Les anciens, mais... c'est joli.
Mmh. Oui, c'est très joli, les anciens.
Mais les vieux, c'était une très jolie chanson également.
Oui.
Hein. C'était un bel hommage
de Brel.
De Brel. Magnifique. Les vieux amants, c'était beau tout ça. Hein. Moi, si je prends l'exemple de mes parents qui ne sont pas vieux, hein, ils ont 60 et quelques années, on va dire, ils s'appellent eux-mêmes quand ils parlent de leurs amis. Les vieux, tu viens avec les vieux ce soir. Donc, en fait, les vieux aiment bien s'appeler les vieux, quoi. Il n'y a pas de problème en fait.
Oui, c'est affectueux, c'est amical et affectueux.
Ça se reconnaît
entre... On n'en pense pas moins, hein. On est toujours le vieux de quelqu'un d'autre, hein, bien sûr.
Oui, parce qu'on parlait du club du troisième âge, nous, quand on était plus jeunes, et maintenant, on entend de plus en plus le quatrième âge, qui rassure finalement les gens du troisième âge, c'est ça?
Mais absolument, puisqu'on vieillit beaucoup plus longtemps, et c'est une chance.
Et docteur,
une chance de pouvoir vieillir longuement, et bien, et sans handicap.
Et de mieux en mieux, docteur, est-ce qu'on peut dire qu'on leur en demande trop à nos vieux aujourd'hui? Je pense à l'injonction de rester jeune, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Oui, vous avez parfaitement raison. On leur demande beaucoup trop. On leur donne des injonctions à bien vieillir. Et les injonctions, on ne les suit pas. Hein, y a une formation personnelle où on est en réaction avec ça. Il faut apprendre à vieillir bien. C'est différent. Hein. Mm-hmm. C'est différent. Et je vais vous donner tout à l'heure certainement des bons conseils pour vieillir bien.
Avec
comme
plaisir.
Du bon vin.
Ah, c'est super. On aime le bon vin aussi, avec modération. Docteur Lefebvre Desnouettes, l'âgisme, c'est vraiment quelque chose qui va quelque part, j'ai l'impression, mais vous allez me dire si j'ai tort, qui va en s'aggravant. Parce que moi, je n'ai pas l'impression que dans les années 50, ça existait. Les vieux, c'était respecté. Les vieux, c'était la sagesse. On a l'impression que c'est quelque chose d'assez récent quand même, non?
C'est très récent parce que les femmes de 50 ans en 1950 n'étaient pas du tout les femmes de 50 ans d'aujourd'hui. Mmh. C'était beaucoup plus rare de vieillir longtemps. Donc, il y avait du respect, il y avait de la dignité, il y avait de l'admiration pour nos aînés qui vieillissaient. Aujourd'hui, non.
Moi, j'ai l'impression quand même, vous pensez pas, docteur, que quand même, il y a un peu du mieux quand même pour nos aînés. On aime bien, vous savez, dans cette émission, voir le positif, mais on fait quand même des choses pour le grand âge. Je parle par exemple de la loi grand âge. Qu'est-ce que vous en pensez?
Malheureusement, nous sommes très déçus car il n'y aura pas de loi grand âge.
Ah bon?
Elle a été abandonnée mercredi dernier lors de la conférence de presse. Nous sommes très 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 déçus. Pour autant, il y aura des mesures financières. Effectivement, on ne fait pas rien pour les vieux, mais on ne fait pas assez. Notamment pour les personnes âgées vivant avec dépendance.
Je rappelle le titre de votre livre, donc c'est « Vieillir n'est pas un crime » pour en finir avec l'âgisme. Vous dites notamment dans votre livre, le mot « crime » quand même dans le titre, c'est pas un peu fort le mot « crime » Pourquoi ce terme?
Oui, c'est très fort, c'est un choix éditorial fort qui est fait pour réagir, pour qu'on change le regard de la société vis-à-vis de nos personnes âgées. Un crime, c'est les criminels, qu'est-ce qu'on fait? On les reclut, on les met loin de la société. Or, nos vieux sont loin de la société. Mmh. Ils sont pas inclus dans le tissu social. On les assigne à résidence. Hein, lors de la pandémie de Covid, on les a surprotégés en les contentionnant dans leur chambre. Ils n'ont pas vu leurs proches. Donc, ils sont un peu traités comme des criminels. C'est pourquoi nous avons choisi ce titre fort.
Mais c'était aussi pour les protéger, quelque part.
Oui, mais en les protégeant, on les a surprotégés. Mmh. Et c'est pas bon, puisqu'ils sont morts de syndrome de glissement, de chagrin de ne pas voir leurs proches.
Mais le Covid aussi a accentué encore cet âgisme, non? Parce qu'il y a toute une population aussi un peu plus jeune qui les a pointés du doigt. C'est-à-dire, si on est tous confinés, c'est pour vous protéger, c'est parce que vous êtes plus à risque. Donc ça a encore aggravé la situation, non, le Covid?
Oui, le Covid a tout à fait aggravé les choses avec un clivage de la société. Avec, on va sacrifier une génération de jeunes pour des vieux qui, de toute façon, devaient mourir. Alors, quand on massifie les vieux, évidemment, on peut tenir ce discours-là. Mais quand il s'agit de votre papa, votre maman, votre grand-père, vous ne dites pas la même chose.
Évidemment. Alors, comme on est une émission positive, on a envie d'aller vers le positif. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à cette question ? Qu'est-ce que les vieux peuvent nous enseigner très concrètement et que parfois, justement, on oublie ?
Leur expérience, ce qu'ils ont fait, ce que leurs vieilles mains peuvent encore dire. Ça, ce sont des trésors d'humanité et c'est très important qu'ils puissent transmettre, qu'on leur donne la parole. Or, on ne leur donne pas la parole. Mmh. Est-ce que vous avez vu aussi des médecins gériatres sur les plateaux de télévision ? Personne ?
Pas beaucoup. Non, vous êtes là, dans ce studio radio. Ouais. Alors, pas tout à fait dans le studio, mais ça ne va pas tarder, peut-être.
J'espère. vous rejoignez très vite. Oui, oui, merci à vous de m'inviter, bien entendu.
Et pourquoi, à votre avis, on n'en voit pas beaucoup des médecins de personnes âgées ?
Mais parce qu'ils ne sont pas sollicités. Vous voyez, même la discipline gériatrique est criminalisée, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est mise loin des yeux, loin du cœur. Hein, on n'y pense pas. Mmh. On est dans la réanimation. On est dans... Il faut agir. Hein, faut agir, il faut sauver des vies.
Mmh. Et l'amour.
Moi, mes vies, elles n'ont pas été sauvées. Hein, mmh. Bien sûr, on les a accompagnées dignement.
Et l'amour dans tout ça ? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, avant de vous avoir au téléphone, c'est un sujet tabou, l'amour. L'amour du grand âge, l'amour pour les personnes âgées, mais l'amour entre personnes âgées. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
L'amour du grand âge, c'est une très belle question. Les gens ne peuvent vivre de la naissance à la mort que grâce à l'amour. C'est à l'amour qu'on leur porte. Ça, c'est quelque chose de très fort. Et l'amour à la fois de ces personnes, du grand âge, est quelque chose à montrer en exemple. Il existe, on doit leur porter. Alors évidemment, moi, en tant que soignante, c'est pas un amour éros, hein, ni érotique, c'est un amour agapé, c'est-à-dire celui qui donne sans attendre de retour. Et l'amour entre les personnes âgées existe, mais reste extrêmement tabou.
Et vous avez entendu Clément Lanoux qui avait été faire une petite visite dans une maison de retraite à la grand-mère de sa compagne et qui disait qu'il n'avait jamais été autant dragué que avec toutes les petites mamies autour de lui, justement.
Bien sûr, tout à fait. Mais moi, je le rencontre avec les vieux messieurs. Hein. Alors... Bien sûr. Et ils ont envie de vivre. Ils ont envie d'être dans la séduction encore.
Alors la séduction, et puis un sujet encore plus tabou, la sexualité. Évidemment, on n'a pas la même sexualité à 20 ans, à 40, et à 60 et 80. Est-ce qu'on peut dire qu'elle n'en est pas moins riche et moins belle ? Qu'est-ce qu'on peut dire de la sexualité du grand âge ?
D'abord, la sexualité n'est pas réduite à la génitalité. On est moins dans la performance. On est plus dans l'attention, la tendresse, l'acceptabilité de l'autre. Plus on vieillit, plus on se rapproche malheureusement de notre finitude et plus on a envie de mots doux, de mots tendres, de se retrouver à deux dans un lit le soir, de se dire bonne nuit, de se faire des caresses. C'est ça que l'on voit en gériatrie et c'est ça qu'il faut favoriser.
Et j'ai une question, parce que je reviens sur la même maison de retraite et la même anecdote, il m'est arrivé quelque chose d'assez dingue, et j'ai hésité, je me suis fait en fait, il y a une personne qui m'a demandé une cigarette, une personne qui était résidente d'une personne âgée, donc qui avait quand même un certain âge, et j'ai culpabilisé, j'ai dit mais je vais pas donner une cigarette...
Comme on n'en donnerait pas une à un ado.
Exactement, et d'un autre côté, la personne elle avait envie de fumer, je me suis dit, passé un certain âge, est-ce qu'on doit justement juste se faire plaisir ou prendre soin d'eux en fait ? Je savais pas trop, j'étais face à un dilemme.
Eh ben, c'est un très joli dilemme, mais on doit faire les deux. C'est-à-dire, dans les maisons de retraite, on ne peut pas fumer parce qu'il y a des questions de sécurité. Mais par contre, il y avait un jardin attenant.
Oui. Ah, mais c'était dans un jardin. C'était une personne âgée qui m'a demandé, qui m'a dit « Est-ce que je peux prendre une cigarette ?» C'était bizarre, en fait.
Alors, il aurait dû vous demander « Pouvez-vous m'offrir une cigarette ?»
Tout à fait.
Voilà, il ne devait pas être si vieux que ça. Hein.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Oui.
Très bien. Docteur Lefèvre, on reste encore un peu ensemble. On n'en a pas fini avec vous et ce sujet passionnant du vieillissement. Ce matin, on tente d'en finir avec l'âgisme et on parle de ces solutions qu'on peut mettre en place pour soi ou pour ses proches pour que vieillir se fasse en douceur et dans l'amour. On y revient dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous, le temps qui court. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est votre magazine Bien-être, Mieux Vivre dans lequel on vous guide tous les jours vers une vie encore plus positive pour vous, pour votre entourage et surtout pour les plus anciens qui nous entourent tous. Et ce matin, on se pose cette question, je la rappelle, qui a dit que vieillir était un crime ?
Oui Mélanie, c'est sûrement pas notre invitée qui a dit ça. Elle est toujours, non pas à nos côtés, mais au téléphone. C'est le docteur Véronique Desnoëttes. Vous êtes psychiatre de la personne âgée et l'auteur du livre que je montre à la la caméra, vieillir n'est pas un crime, en finir avec l'âgisme aux éditions du Rocher. Alors, vous dites que, qu'il faut célébrer la vieillesse. Pourquoi et surtout de quelle façon, s'il vous plaît?
Comment on fait la teuf?
Ouais. Comment on fait la teuf? Eh bien, déjà en reconnaissant nos aînés comme faisant partie de monde, de notre monde, les intégrer à une société qui sera bienveillante, qui sera inclusive et qui ne va pas les exclure. Comment on fait la teuf quand on est vieux? C'est pas très compliqué. Il faut essayer de retrouver leur temporalité. Il faut s'adapter à la nouvelle donne. Évidemment, ils vont pas aller en boîte de nuit, surtout avec la Covid, des heures. Je pense que c'est pas ça qui leur plaira. Mais leur proposer des lieux agréables, de convivialité, c'est tout à fait faisable. Leur proposer des activités physiques, intellectuelles et aussi des bons conseils de nutrition, eh bien, vous verrez qu'ils auront envie de faire la teuf encore longtemps.
Bon, Clément Lanoux, je crois qu'il a envie de faire la teuf et de vieillir. Il est resté avec nous, Clément?
Oui, bah, je me demandais toujours si les maisons de retraite allaient évoluer justement en ce sens. Et de se dire peut-être que, est-ce que dans 30 ans, il y aura des PlayStation et des salles vraiment Netflix? Ce sera peut-être plus Netflix, mais est-ce que les vieux que nous serons dans quelques années auront les mêmes envies qu'aujourd'hui ou est-ce qu'on va se passionner pour des choses plus âgées?
Non, on va se passionner pour d'autres choses. Et bien sûr que les maisons de retraite vont changer.
Balmusette avec de la techno ou quand même pas?
Voilà. Oui, très, très probablement. Très probablement. Il y a déjà des techniques comme ça, notamment pour la stimulation cognitive. Hein. Il y a des énormes écrans plats. On propose des choses. Les jeunes que vous êtes aujourd'hui, vous serez des vieux très exigeants. Et vous aurez raison de l'être. Mmh. Et ça sera à la société de s'adapter à vous. Mmh. Et de vous offrir ce qui vous plaît. Parce que c'est les mémoires anciennes qui restent plus longtemps active. Donc vous aurez connu Netflix, ça sera peut-être plus Netflix, mais ça sera d'autres plateformes, et il faudra qu'on vous donne les conditions de possibilité d'exercer ça.
Ah, c'est génial, bah oui. On est des jeunes qui ont connu le divertissement, alors effectivement, on n'a pas envie de s'ennuyer quand on sera vieux. Hein.
Ouais.
Non, il n'en est pas question.
Dit comme ça, on dirait que vieillir, c'est presque une chance quand on vous écoute. Vous en connaissez beaucoup aujourd'hui, je parle vraiment à l'heure actuelle, des seniors qui pensent comme vous, comme ça, que la vieillesse est une joie, une chance, vraiment?
Oui, alors tous les seniors que je connais, encore une fois, c'est des jeunes vieux, hein, pensent comme moi exactement. Mais moi, mes vieux de mon hôpital gériatrique, eh bien, sont très heureux de vivre jusqu'au bout, même jusqu'à leur finitude, jusqu'au dernier moment. C'est, s'il vous plaît, monsieur le bourreau, encore un petit peu de temps, encore un peu d'une caresse. Hein. C'est ça qui est important, être dans l'humanité jusqu'au bout et être heureux de vivre jusqu'au bout.
Alors docteur, je vais vous poser une question très indiscrète, mais comme vous n'êtes pas avec nous en plateau, on a parié sur votre âge pendant la publicité.
Moi, j'ai dit 22.
Moi, j'ai dit 28. Non. Quel âge avez-vous pour parler comme ça?
J'ai 67 ans.
Alors, vous êtes une vieille ou pas?
Je me sens pas vieille. Hein. Peut-être que je suis une vieille au regard de vos jeunes journalistes, mais moi, je me sens pas vieille, ni dans mon corps, ni dans ma tête.
Ben non, on vous entend pas vieille, en tout cas. On n'a pas l'impression, effectivement.
C'est quoi l'avantage d'être vieux?
C'est d'avoir de l'expérience, c'est de savoir dire non quand on vous impose quelque chose qui ne vous convient pas, c'est de transmettre. C'est ça qui est très important, transmettre ce qu'on en a appris, transmettre cette temporalité, goûter la vie, carpe diem, hein, être tous les jours dans l'émerveillement de petites choses simples, et puis d'avoir cette capacité d'adaptation. Vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas pu vous rejoindre en plateau, je le déplore, mais nous sommes là, nous sommes quand même en lien. Ça, c'est quelque chose de très important qui fait que je ne vais pas rester vieille bien longtemps.
Hein. Vous disiez tout à l'heure qu'on en met peut-être un peu trop la pression aux vieux d'aujourd'hui, mais est-ce que quand même, malgré tout, il ne faut pas savoir rester jeune pour bien vieillir? Parce que ça donne envie quand même de se dire, moi quand j'aurai 70 ans, je ferai encore, j'en sais rien, des grandes marches, des grandes randonnées. Enfin, c'est une façon de rester jeune, d'être actif physiquement aussi.
Ah bien sûr, hein, c'est un corps sain dans un esprit sain, il faut rester actif physiquement, mais attention, pas la marche nordique avec des bâtons, pas la salle de sport, pas le scaternovisme du sport, pas le minutage, je vais faire 30 kilomètres. Non. Les petits chemins de traverse, marcher, une demi-heure de marche par jour va prévenir les maladies cardiovasculaires, va prévenir l'ostéoporose et va faire reculer la maladie d'Alzheimer, vous entendez bien, de 30%.
Quand donc on marcher, bouge, on fait du bien à son cerveau, en fait, c'est ça aussi.
Oui,
hein.
Absolument, absolument. Et puis on est en relation avec les autres, avec la nature.
Moi, docteur, vous me donnez envie d'être centenaire. Non, mais vraiment, j'aimerais bien, moi, durer le plus longtemps possible. Enfin, si on veut bien 2 mois, évidemment. Est-ce que pour réussir mon pari, au-delà, j'ai bien compris, du bouger, de la marche, etc., il y a une alimentation pour devenir, par exemple, centenaire? Parce que ça doit pas
absolument
être évident.
Et nous avons des exemples, par exemple, le régime crétois.
Voilà,
le régime,
c'est ce que j'allais dire.
Absolument, c'est-à-dire des fruits et des légumes frais, c'est-à-dire du poisson gras, peu de viande rouge, prendre des céréales, boire de l'eau. Alors on a parlé du vin tout à l'heure, mais c'est bien, Un verre de vin par jour, c'est bien, parce que dans le tanin du vin, vous avez des antioxydants qui protègent vos neurones. Et je ne l'invente pas, c'est scientifiquement prouvé.
Mais une gériatre qui nous dit de boire du vin,
Et attendez, mais
un petit peu, avec modération.
Toujours avec modération. Mais dites-moi, docteur Jeanne Calment, elle buvait, non, jusqu'à la fin
de
ses jours?
Oui, elle adorait.
Elle fumait aussi, je crois.
Absolument, un cigarette.
Elle se droguait, je crois.
Non, là, je ne vous suis pas.
Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut garder, malgré une hygiène de vie, on en a compris, il faut faire attention à son hygiène de vie, faire du sport, bien manger. Mais malgré tout, il faut continuer à se faire plaisir et de temps en temps ne pas être dans les clous. Est-ce que ce n'est pas ça le secret pour bien vieillir?
Bien sûr, ce n'est pas un état, être vieux. C'est une dynamique. C'est quelque chose qui est progressif, qui est vivant. Un jour, vous serez très vieille et puis un jour, vous serez hyper jeune dans votre tête. Parce que vous serez amoureuse, parce que vous aurez eu un clin d'œil de la vie. Et c'est ça qui est important. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, une petite fille sur deux qui naît sera centenaire.
Oh,
c'est une chance. Mais bien sûr, et vous serez centenaire.
Pas les hommes? Pas les hommes, non?
Alors non, les hommes... L'écart entre les hommes et les femmes se réduit à 5 ans maintenant, l'espérance de vie. 85 ans pour les femmes, 79 ans et quelques mois pour les hommes. Mais les hommes meurent avant les femmes.
Bon, les petits garçons qui naîtront dans 5 ans, peut-être eux aussi seront centenaires alors.
Voilà, très probablement. Parce que les hommes négligent plus leur santé que les femmes.
C'est vrai. Et qu'est-ce que vous avez à dire, ou alors qu'est-ce que vous pensez des personnes qui refusent catégoriquement de vieillir? On voit souvent des personnes justement très âgées, habillées comme quelqu'un de 15 ans, ou qui vit vraiment de manière très rock'n'roll. Est-ce que vous encouragez ça? Est-ce qu'au contraire, vous condamnez le refus de vieillir?
Non, alors moi je suis justement dans une position médiane. Si ça leur fait du bien, si elles sont bien comme ça, formidable, mais qu'elles continuent. Il n'y a pas de jugement moral à leur opposer, absolument. Mais bon, c'est vrai que parfois on a l'impression de l'extérieur qu'elles changent les jeunes, c'est-à-dire qu'elles s'habillent avec des converses comme leurs petites filles. Écoutez, si ça leur fait du bien de sauter à la corde de grand-mère et petite fille en converse,
très bien.
Tant mieux.
Très bien,
tant
je vais
mieux.
Prendre rendez-vous chez le tatoueur pour ma grand-mère. Alors.
Et docteur, comment on fait pour garder l'esprit vif? Vous avez dit tout à l'heure que bon, bien sûr, marcher, c'est bon, ça permet de faire reculer le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer, donc activité physique pour préserver son cerveau. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses, des activités intellectuelles qui permettent de garder un cerveau au top et donc une mémoire et un esprit
absolument.
Vif?
Absolument, être curieux de tout. Bon, quand on habite les grandes villes, eh bien, on peut tout à fait aller voir des expositions de peinture, on peut se promener, on peut visiter les musées, par exemple à Paris, c'est absolument magnifique, on le peut maintenant aujourd'hui. Bon, là, il y a l'Arc de Triomphe qui est emballé par Christo, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne verra qu'une fois dans sa vie. Donc, être curieux de tout, c'est augmenter les connexions synaptiques, c'est s'intéresser à tout. Vous voyez, moi, j'ai fait une thèse de philosophie que j'ai soutenue à l'âge de 72 ans.
Wow.
Eh bien, beaucoup de gens auraient dit, bon, elle est vieille, ça sert à rien, pourquoi elle fait ça, quel sens ça? Mais ça avait un sens pour moi.
Bien sûr. Hein,
d'aller jusqu'au bout de ce que je pouvais apprendre et enseigner ensuite à mes jeunes étudiants en médecine.
Alors, l'intellect, c'est bien de le faire marcher, on a bien compris, mais est-ce qu'on peut aussi se diriger en vieillissant vers une activité artistique? Et si oui, laquelle? Je ne sais pas, bon, le théâtre, la poterie?
Alors, le théâtre fonctionne très très bien, les arts plastiques, la poterie, le dessin, la danse, pas uniquement la danse de salon, hein. Tout ce qui fait que l'on va être dans un petit groupe à partager quelque chose de nouveau, même quelque chose de nouveau, ou apprendre une nouvelle langue. Ça, il ne faut pas du tout se dire « ce n'est plus de mon âge ». Tout est question de croire et d'avoir une volonté, de croire qu'on est encore compétent pour.
Comment fait-on pour mieux accepter la vieillesse? Vous qui avez 27 ans, vous allez nous expliquer. Je crois que l'humour aussi y contribue fortement. Expliquez-nous. Et Clément Lanoux, hein, c'est sûr, il va vieillir très, 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 très vieux, je
j'espère,
crois.
J'espère.
Oui, l'humour, c'est extraordinaire parce que c'est une complicité à bas mot entre nous. On se comprend. Il y a un clin d'œil, il y a quelque chose, il y a un trait d'esprit qui sort. Et je l'ai montré dans ma thèse de philosophie, les malades d'Alzheimer ont énormément d'humour. Ils sont au tac au tac. Mais dès lors qu'on s'adresse à eux comme des êtres dignes de conscience et dignes de compétence.
Oui, et puis vous avez remarqué aussi, quand même, je le disais tout à l'heure, que les vieilles personnes ont moins de filtres. Elles osent dire des trucs. Donc en fait, les vieilles personnes sont souvent très drôles, non?
Très très drôles. Et moi j'adore. J'adore mon métier. Il n'y a pas un jour où je vais à reculons dans mon hôpital. Elles sont très drôles, elles sont tac au tac, elles ont un humour qui n'est pas cynique, vous voyez. C'est un humour, une espèce de désinhibition, une joie de vivre tout d'un coup qui jaillit.
comme les enfants finalement. Ouais. On retrouve ces barrières qu'on se met adultes par peur peut-être d'autrui.
Du qu'en dira-t-on, etc.
Parfaitement. Et quand vous voyez les dessins d'enfance qu'ils disent et les dessins des personnes très âgées, c'est magnifique. C'est la même chose.
Oh. Bon. Merci beaucoup, docteur Lefebvre-Desnouettes, de nous avoir accompagnés ce matin. Merci pour tous vos conseils, toutes les solutions évoquées aujourd'hui avec nous pour profiter en douceur du bien vieillir. Merci encore, docteur. À présent, Julia, il est temps de changer de sujet et de passer à la séquence tendance de ce magazine.
Et oui, Mélanie, on va accueillir dans un instant, ici même, nos deux chroniqueurs du jour. Elsa Lévy, celle qui va dénicher pour nous ces tendances venues d'ailleurs et qui nous font du bien. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer ce qu'est le slow tourisme. Et puis, le docteur Aurène Marco, alias Dr Beauty, sera également avec nous ce matin. Il dit stop aux cicatrices disgracieuses. Il nous propose des solutions esthétiques pour s'en débarrasser. Alors, à tout de suite. De retour sur Europe 1, et c'est bien fait pour vous, du lundi au vendredi, de 11h à 12h30. C'est votre magazine positif, celui que vous attendiez en 2021. Ici, avec Mélanie Gomez, une seule mission nous habite, prendre soin de vous. Et donc maintenant, Mélanie, on va lancer la partie tour de table, la partie tendance de ce magazine.
Voilà, c'est parti, effectivement, Julia. Et justement, pour démarrer, docteur Aurène Marco, docteur Beauty, notre docteur Beauty national. Vous êtes l'un de nos experts ici, beauté, pour toutes les questions donc esthétiques, etc., qui peuvent nous aider, elles aussi, bien sûr, à nous sentir mieux dans notre tête. De quoi on va parler ce matin ?
Eh bien, ce matin, on va répondre peut-être aux questions. On a souvent cette question en consultation. Est-ce qu'on peut effacer une cicatrice ? Et aussi, faut-il vraiment toutes les effacer ?
Mais on peut, on est d'accord, dites-nous oui.
On peut améliorer.
On peut améliorer, mais le faut-il ? Vaste question. Merci docteur Marco, on revient avec vous dans quelques minutes pour faire disparaître ces cicatrices qui peuvent parfois vraiment être à l'origine de gros complexes, ça c'est sûr. Mais en attendant, je me tourne vers vous Elsa Lévy, je crois qu'on va une fois de plus partir en vacances, voyager grâce à vous, décidément.
Voilà, alors cette fois, parce que c'est sûr, les vacances d'été sont bel et bien terminées et selon un sondage Odoxa, seulement 43% des actifs se disent en meilleure forme au retour de leur congé, donc c'est ballot. Du coup, je vous propose aujourd'hui un concept révolutionnaire des vacances reposantes avec le slow tourisme.
Alors, le slow tourisme, ça vient d'où ? Parce que ça vient toujours de pays étrangers, vos tendances. Hein,
oui, alors là, on va remonter un peu le temps et on va aller en Italie. On est en 1986, quand le critique gastronomique Carlo Petrini assiste à l'implantation d'un McDonald's en plein cœur historique de Rome. Il est tellement sidéré qu'il décide alors de créer la slow food, en opposition au fast food et à la malbouffe en général. Et ce courant slow, qui consiste à privilégier la qualité à la quantité et qui prône la lenteur, va s'étendre lentement mais sûrement à d'autres pans de la vie sous le nom de slow life. Le rappeur Oxmo Puccino en a même fait une chanson et prévient, la slow life n'est pas la no life, c'est même l'inverse. Et cette philosophie slow s'est déclinée logiquement jusqu'au voyage avec le slow tourisme.
Alors justement, ça consiste en quoi le slow tourisme ?
Alors le slow tourisme, c'est l'opposé du tourisme de masse. Vous savez, ces voyages en mode Benny Hill où on a tendance à vouloir faire un maximum de trucs en un minimum de temps. Comme son nom le laisse entendre, le slow tourisme, c'est l'inverse. On va faire un minimum de trucs en un maximum de temps et en mieux. Ici, on se concentre sur un endroit en particulier et on s'y émerge. On va à la rencontre des locaux. On privilégie une nuit chez l'habitant à une nuit à l'hôtel, on mange local et on se déplace avec des modes de transport doux et peu polluants, donc le vélo, le train, le bateau, le cheval ou même en canoë et kayak si on opte par exemple pour la descente d'un fleuve en faisant des haltes dans des gîtes ruraux. Mais ça ne vous empêche pas de prendre un avion pour vous rendre dans un pays étranger. Hein. L'idée, ce n'est pas forcément d'aller en Inde à pied ou à vélo. En revanche, une fois sur place, on se déplace et on vit en harmonie avec la nature.
Bon, Elsa, comment on s'y prend très concrètement pour faire un voyage slow ?
Eh bien, quoi de mieux que de poser directement la question à Philippe Aurin, qui est directeur des guides touristiques Michelin Édition, qui a publié un guide intitulé « Slow Tourisme » en février dernier.
Le slow tourisme, c'est un tourisme bienveillant. J'aime beaucoup ce mot. Donc, il faut prendre son temps, déjà prendre son temps de préparer. Et puis sur place, prendre son temps également, délaisser les sites les plus visités, profiter de longues balades, profiter des lieux aussi qui sont chers à la communauté locale dans laquelle vous allez vous trouver, participer à des événements, soutenir l'artisanat. C'est vraiment important de s'imprégner des lieux au plus près des habitants.
Voilà, et j'ajoute que ce guide du Michelin est une véritable petite bible de conseils pratiques pour bouger en France avec 52 destinations, parce que c'est bien de sortir des sentiers battus, mais quitte à aller lentement, autant gagner un peu de temps avec un bon guide. Après, sur Internet, il y a également plein de blogs très complets, des récits de voyage, car c'est aussi ça la philosophie du slow tourisme, c'est des partages d'expériences et de bons plans entre voyageurs. D'ailleurs, préparer son voyage, c'est déjà un peu commencer le voyage.
Et il y a beaucoup de gens qui voyagent comme ça, déjà ?
Eh ouais, de plus en plus, c'est même un des modes de voyage les plus prisés aujourd'hui par les Français. La crise sanitaire et ses contraintes ont d'ailleurs accentué ce phénomène. Et c'est logique, car le slow tourisme, c'est avant tout un état d'esprit. Donc on va peut-être limiter les distances, mais on va adopter un rythme naturel, retrouver son horloge interne, déstresser et se reconnecter à soi. Et étrangement, en allant lentement, on va gagner du temps, ou du moins la sensation d'en profiter pleinement, au point où j'étais à deux doigts de faire cette chronique au ralenti, mais je me suis dit c'est peut-être pas très radiophonique. Bref, en plus d'être reposant, le slow tourisme est un tourisme durable, en lien avec la nature, soi-même et les autres. Donc vous l'avez compris, pour voyager mieux, il est urgent d'être lent, et comme le disent les Italiens à l'origine de ce mouvement, qui va piano va sano.
Ah, bravo, merci beaucoup. Chouette. C'était très chouette, Elsa Lévy. Il va peut-être falloir passer la seconde, Mélanie.
Oui, non,
parce qu'on était bien là. Bah oui, c'est à votre tour, docteur Aurèle Marco.
Alors, lentement parler de
la cicatrisation.
Bah oui, la cicatrice. Alors moi, ça me connaît. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a des cicatrices qu'on aime, des cicatrices qu'on a envie d'effacer. En gros, à quoi ça ressemble déjà une cicatrice normale?
Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une effraction de la peau, il y a une cicatrice. Donc j'ai souvent cette question qui revient avant une intervention. Est-ce que je vais avoir une cicatrice, docteur? Oui, évidemment, si on opère, on a une cicatrice. Après, elle peut être de plus ou moins de bonne qualité. Et pour être de bonne qualité, il y a des choses à faire, on va en parler.
Qu'est-ce qu'il faut un bon chirurgien, déjà.
Alors, il y a effectivement la manière dont on opère, la manière dont on referme les tissus. Mais également, il y a une partie un peu génétique, un peu intrinsèque. Il y a des facteurs qui sont importants à connaître pour une bonne cicatrisation. Une cicatrice normale, déjà, c'est quoi?
C'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est boursouflé? C'est plat? C'est comment?
Voilà, une cicatrice normale, elle doit être plane, assez linéaire, ou en tout cas placée sur le corps. On a ce qu'on appelle les lignes de tension. Donc sur le visage, par exemple, toutes les rides, elles sont placées toujours un petit peu dans le même sens. Et donc ça, ce sont les lignes de tension du corps. Et quand on fait une cicatrice chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va opérer quelqu'un, il faut essayer d'opérer en respectant ces lignes de tension pour avoir une meilleure cicatrice. Après, vous avez des cicatrices qui sont d'origine traumatique, une brûlure, un accident, etc. Et là, on n'a pas le choix. Donc, une cicatrice qui est jolie, c'est une cicatrice qui est plane, qui aura de toute façon une trace colorée, qu'elle soit un peu plus foncée ou plus claire. Mais l'idée, c'est qu'elle soit plane. Et les cicatrices qui sont pathologiques sont des cicatrices qui sont un peu épaisses, un peu rouges.
C'est quoi une cicatrice anormale? Parce que là, vous avez dit jolie cicatrice. Vous, en tant que médecin, chirurgien esthétique, il y a vraiment des cicatrices que vous trouvez jolies?
Il y a des cicatrices, oui, qui sont plus, en tout cas, qui peuvent être plus masquées que d'autres.
Et celles qui sont anormales, alors elles sont...
Et celles qui sont anormales, elles sont boursouflées. Alors, boursouflées au début, c'est normal, mais boursouflées au bout d'un an et demi, deux ans, là, il faut essayer de consulter peut-être un dermatologue ou un plasticien pour essayer de voir si on peut agir encore dessus. Une cicatrice, globalement, elle met 12 mois et 24 mois à se stabiliser. Donc pendant ce laps de temps, on peut encore jouer dessus avec des facteurs, les facteurs dont je vais vous parler.
Mais c'est-à-dire, on peut jouer dessus avec quoi? Avec des crèmes, par exemple?
Avec des crèmes, par exemple. Ah oui. Alors, donc, déjà, si c'est quelque chose de programmé, on va éviter de fumer, on va éviter l'exposition au soleil.
C'est pas juste pour nous embêter, arrêter de fumer, le tabac nuit à la cicatrisation.
Vraiment nuit à la cicatrisation, et on va masser les cicatrices. Mettre des crèmes au départ, c'est très important. Donc il y a des crèmes à base de silicone ou des crèmes à base de plantes qui permettent de calmer un peu l'inflammation des cicatrices, et ça permet après d'avoir une meilleure cicatrisation. Et si vraiment on voit que ça commence à s'épaissir ou à boursoufler, on peut mettre des petits pansements à base de silicone, c'est des choses transparentes qu'on met qui vont appuyer sur la cicatrice pendant les premiers temps et empêcher qu'elle devienne épaisse.
Ça, c'est quand c'est chaud, quoi, quand ça vient d'être ouvert et refermé.
Quand on est entre le moment de l'opération et on va dire 12-15 mois. D'accord. Après, si on veut être plus actif,
c'est les lasers,
on peut proposer les lasers. Ouais. Les lasers, donc il y a des lasers qui permettent de diminuer l'inflammation. Il y a des lasers qui permettent aussi d'enlever les couleurs.
Ah, d'accord.
Donc ça, c'est important de le savoir. Et donc, si vous avez une cicatrisation qui est pathologique, n'hésitez pas à aller consulter un dermatologue laseriste qui pourra vous proposer un de ces deux lasers. D'accord.
On peut effacer pas mal de cicatrices au laser?
Alors, j'entends souvent ça, mais docteur, c'est pas grave, on va pouvoir effacer ma cicatrice au laser. Non, effacer non, l'améliorer. On peut tenter avec tous ces traitements, mais l'effacer complètement, ce n'est pas possible.
Il faut combien de séances en général pour du laser? Parce qu'on a l'impression qu'on y va, c'est réglé. Non, il faut quand même plusieurs sessions.
Non, il faut plusieurs séances, entre 4 et 6 séances environ, et ce n'est pas toujours pris en charge par la Sécurité sociale.
Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour une cicatrice chirurgicale?
Alors, pour une cicatrice chirurgicale, c'est ce dont on a parlé. Masser la cicatrice, éviter l'exposition au soleil et le tabac. D'accord.
D'ailleurs, je signale, je crois que quand une dame ou un monsieur vient pour un lifting, c'est une des choses vraiment très importantes sur le visage notamment.
la cicatrisation peut être compliquée si on fume. Hein.
Partout sur le corps, en fait, on préconise vraiment d'arrêter le tabac. Moi, je demande 3 semaines à 1 mois avant l'opération de diminuer au maximum. Après, on ne peut pas...
Une grosse fumeuse, vous ne le ferez pas de lifting si elle fume 2 paquets Ah ouais, vous la décalez. Deux paquets par jour,
vraiment,
c'est pas possible.
C'est dangereux. C'est dangereux, on peut avoir des défauts de cicatrisation qui peuvent être terribles sur le visage.
Je ne savais pas que le tabac était aussi important.
Si vous n'envisagez pas le lifting, ce n'est pas grave.
Je vais prendre rendez-vous avec le docteur, il va me dire. Mais par contre, ce que moi, j'ai longtemps envisagé, c'est de me faire réopérer ma cicatrice.
Donc vous avez une cicatrice
où, j'ai une cicatrice au bras. Regardez, je me dessape. Mais j'ai une cicatrice
sur europe.fr
qu'on ne voit plus beaucoup parce que je l'ai recouverte d'un tatouage, mais effectivement j'ai eu une grande opération.
D'accord.
Et j'étais pas très satisfaite du résultat.
Et c'était une cicatrice
du bras,
de quoi
de brûlure du troisième degré.
C'était une brûlure. Et donc du coup,
est-ce qu'on peut réopérer par exemple sur une cicatrice qui a déjà
mais est-ce que, alors déjà on peut effectivement tenter d'améliorer une cicatrice de brûlure des fois quand il y a un manque de peau de part et d'autre. On a des techniques chirurgicales qui nous permettent de mettre des ballons en fait sous la peau de part et d'autre de la brûlure. On les gonfle petit à petit en consultation et ça fait un excès de peau. Et cet excès de peau permet d'enlever le placard cicatriciel.
Mais là, elle est vieille, sa cicatrice. C'est quand vous étiez enfant, Julien.
Je vous remercie.
Non, mais
il y a une cicatrice humaine. Oui, mais c'est effectivement une vieille cicatrice. Voilà.
Mais comment vous avez vécu le fait là de la gommer avec le tatouage?
Je vais vous dire, ça m'a fait hyper bizarre parce que cette cicatrice, ça faisait 30 ans que je vivais avec et je l'aimais beaucoup. Donc j'ai compris ce que vous avez dit en début de chronique. Il y a certaines cicatrices qu'on n'a pas envie d'effacer. Alors je parle à toutes celles et à tous ceux qui ont des cicatrices. Eh bien, aimez votre cicatrice, chérissez vos cicatrices. C'est aussi une partie de vous-même.
Exactement. Bon.
Merci beaucoup, docteur Aurène Marco. Merci à vous également, Elsa Lévy. On vous retrouve très bientôt tous les deux dans Bienfait pour vous avec d'autres tendances venues de l'étranger. Et d'autres conseils beauté, esthétique. En attendant, Julia, on va changer de thématique avec un sujet santé et bien-être très masculin, je crois.
Tout à fait ça, Mélanie. Dans quelques minutes, ce sera notre grand dossier santé. Dès midi, on va s'intéresser à un tout petit organe dont nous sommes dépourvus, nous les femmes, la prostate. Mais ça nous intéresse quand même, hein, si on peut aider ces messieurs à en prendre davantage soin. On vous donnera des conseils de prévention du côté de l'alimentation notamment et de votre hygiène de vie avec l'urologue, le professeur François Desgrandchamps. A tout de suite sur Europe 1.
Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Info météo à la une d'Europe Midi. Une info tombée il y a quelques minutes. Le Gard est placé en alerte rouge à cause des pluies torrentielles et des orages. Toutes nos informations, évidemment, dès le début d'Europe Midi dans une demi-heure. On va aller également à Roubaix. C'est là qu'Emmanuel Macron va annoncer ses mesures pour accroître la sécurité. Le président de la République qui devrait annoncer qu'il faut plus contrôler la police. On sera sur place et j'appellerai un peu policier. Tiens, Stanislas Godon du syndicat Alliance. Marine Le Pen était ce matin la première invitée de notre dispositif spécial présidentiel sur Europe 1. Elle a été interrogée par Sonia Mabrouk. On va y revenir. Vous allez voir que Marine Le Pen a pris ses distances avec Éric Zemmour. On va parler crédit immo. Ça pourrait être un petit peu plus compliqué d'obtenir un prêt bancaire pour s'acheter une maison ou un appartement. On va tout vous expliquer. Et puis, on va écouter également du Johnny Hallyday à l'occasion de la journée d'hommage et du concert de ce soir à l'Accor Hôtel Arena. Voilà pour le programme d'Europe Midi. À tout à l'heure.
Merci beaucoup Romain. Dans une demi-heure donc.
Europe 1, 11h30. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30 et dans la demi-heure qui va suivre, comme tous les jours avec Mélanie, on va surtout prendre soin de notre santé.
Comme vient de le dire Julia, dès midi comme tous les jours, nous serons accompagnés d'un invité. Aujourd'hui, c'est le professeur François Desgrandchamps. Il est chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et après l'avoir entendu, la prostate n'aura plus aucun secret pour vous. Enfin, surtout, vous aurez en main tous les conseils pour en prendre soin, la garder en pleine forme le plus longtemps possible.
Et puis à 12h20, ce sera notre rendez-vous habituel à la fin de cette émission, la fameuse chronique vite fait, très bien fait. Et aujourd'hui, ce sera vous la cerise sur le gâteau, en quelque sorte Jean-Marc Delorme, notre coach sportif. Quoique Jean-Marc, les gâteaux, il n'en mange pas trop, hein, on ne va pas en manger non plus, je crois, vu le thème de votre chronique. On va parler de quoi?
On va parler de plein de conseils pour que vous ayez un corps de rêve.
Ah bah voilà, c'est bien ça le problème, ouais, pas de gâteaux en prévision.
Ça ne se passe pas avec les gâteaux en général. Merci Jean-Marc. On vous retrouve dans quelques petites minutes pour vos conseils et astuces sportives et minceurs donc aujourd'hui. Mais pour le moment, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1.
Alors voilà, on démarre tout de suite la dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé et plus particulièrement à la santé masculine aujourd'hui, puisqu'on va parler de la prostate avec vous. Professeur François Desgrandchamps, bonjour.
Bonjour.
Professeur Desgrandchamps, merci d'être avec nous. Vous êtes donc chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris et l'auteur du livre sur notre thème de ce mardi, justement. Son titre, c'est « La prostate, on en parle » chez Hachette Bien-être, et c'est ce qu'on va faire, on va en parler. Alors professeur, la prostate, il suffit de prononcer son nom. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Marc Delorme, mais certains hommes se mettent à trembler, pensent immédiatement cancer ou autre. Mais justement, avant d'en arriver là, expliquez-nous peut-être à quoi elle sert cette petite glande.
La prostate, c'est une glande qui sert simplement à la reproduction. Ça sert à la fabrication du sperme et donc ça sert quelquefois dans une vie, autant de fois qu'on a d'enfants.
D'accord. Mais vous voulez dire autrement, ça sert à rien ?
Sinon, ça sert à rien.
Ah, d'accord. Non. Pourquoi on l'enlève pas à tout le monde ? Pourquoi on la garde ?
Parce que l'enlever à tout le monde, c'est situé dans un endroit du corps qui est un carrefour entre la sexualité et le contrôle des urines. Ce qui fait que dès qu'on touche à la prostate, il y a un risque de perte de fonction sexuelle ou de perte de fonction urinaire et d'incontinence. La raison pour laquelle, bien sûr, on n'enlève pas
garde,
la prostate.
Donc, on la garde. Jean-Marc, vous la gardez.
Le plus longtemps possible.
On va essayer. S'il vous plaît, gardez-la. Merci. Bon, et quand tout va bien, alors, est-ce qu'il faut qu'elle soit petite ou est-ce que
La prostate grossit normalement avec l'âge. Donc, ce n'est pas anormal d'avoir une grosse prostate quand on a 50-60 ans. C'est presque anormal d'avoir une prostate normale.
Pour avoir une idée de la taille, parce que là, on parle de normal, pas normal,
taille,
une noisette, enfin, je ne sais
phalange,
pas, c'est quoi.
La phalange d'un pouce.
Ça, c'est normal.
Ça, c'est une prostate normale qui fait à peu près 20 grammes. D'accord. Et après, une grosse prostate, ça peut être comme un poing fermé.
Quand même.
Voilà. Mmh. Et donc, mais ce n'est pas parce qu'elle est grosse qu'elle est malade. C'est simplement qu'elle est un peu vieille. Et en fait, quand elle est grosse, mais qu'elle ne gêne pas, on la laisse. Et la prostate la plus grosse du monde connue jusqu'à présent fait 3 kilos.
Vous l'avez rencontrée, ça c'est quoi, c'est le livre des records de la prostate,
oui. 3 kilos, c'est le record. Et c'est en fait un Espagnol de Barcelone qui la porte. Et donc
parce qu'il l'a gardée à 3 kilos.
Bien sûr, 3 kilos, mais qui ne gêne pas. Simplement, c'était un peu gros dans le ventre. Donc il a eu des examens qui ont montré qu'il n'y avait pas de cancer. C'est une grosse prostate bénigne.
Bon,
s'il
n'est
pas gênant,
il la garde.
Donc il faut se souvenir de ça. Ce n'est pas parce qu'elle est grosse ou qu'elle a grossi d'une année sur l'autre qu'elle est malade. Donc ça, c'est pour la prostate bénigne. Bon. Sinon, malheureusement, il y a aussi le cancer de la prostate, mais qui, d'habitude, ne donne pas des grosses prostates, mais plutôt des nodules indurés dans la prostate.
D'accord.
Et donc ça, c'est plus insidieux. Il faut des dosages pour avoir le diagnostic avant que le cancer soit trop avancé.
Professeur Desgrandchamps, en vieillissant, donc elle grossit chez tous les hommes. C'est son vieillissement, d'une certaine façon. Oui. Est-ce que les hommes la ressentent, cette augmentation ? Parce que là, vous dites 3 kilos, il doit bien sentir qu'il y a 3 kilos dans sa prostate.
Non, on dit qu'à peu près 20% des hommes qui ont une grosse prostate en souffrent, le savent. Comment on le sait ? C'est qu'on a des symptômes urinaires et le symptôme le plus précoce du développement d'une prostate trop grosse, c'est quand on se lève la nuit. Alors, hommes et femmes, tout le monde se lève une fois par nuit au-delà de 50 ans pour aller aux toilettes, pour uriner. Ça, c'est considéré comme normal. Mais à partir de deux fois, c'est un petit signal d'attention, pas d'alerte, mais d'attention. Et donc, ça vaut le coup de faire quelques examens.
Très bien. Alors, plus étonnant, mais ça, j'espère ne pas dire une bêtise, est-ce que les femmes ont une prostate ? J'ai entendu dire qu'il y en avait.
Alors, oui, microscopiques, ce sont des reliquats embryonnaires, mais qui ne donnent aucune maladie. C'est quelques cellules, simplement.
Une toute mini prostate.
Donc, c'est faux de dire que les femmes n'ont pas de prostate.
Et n'ont pas de prostate formée. Il y a quelques résidus glandulaires, quelques cellules, simplement.
D'accord. En tout cas, elle est tellement petite qu'on n'en entend pas parler. Parlons prévention un petit peu, professeur Desgrandchamps, à présent, et de tous ces désagréments liés à la prostate. Il y a des choses pour les éviter, justement, ces désagréments. Qui passe notamment par l'activité physique. Je crois que c'est presque la chose la plus importante. Hein.
Alors, avec l'alimentation et la vie sexuelle, c'est trois
aspects. Parlons d'abord du sport. Alors,
pour le sport, oui, parce qu'on dit que la prostate grossit, mais elle grossit avec le bonhomme. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre le tour de taille et la taille de la prostate.
Ah.
Alors, une relation quand le tour de taille s'élève, le problème c'est qu'une fois qu'elle est grosse, la prostate, elle ne maigrit pas. Mmh. Et donc, même si le monsieur va perdre du poids, la prostate restera grosse. Par contre, la perte de poids va diminuer les symptômes urinaires. Parce que lorsqu'un homme a des symptômes urinaires liés à sa prostate, c'est aussi lié à ce qu'on appelle le syndrome métabolique, dont vous parlez sans doute régulièrement.
Le risque de diabète,
qui fait une sorte de pollution de tout le mécanisme du corps, en fait, qui est tout perturbé, et notamment une hypertonie du système sympathique, qui fait qu'on va uriner beaucoup plus souvent et qu'on peut moins attendre. Donc oui, il faut faire attention de ne pas prendre de poids, parce que si on prend du poids, avec le ventre qui grossit, la prostate grossit.
Est-ce qu'il y a une alimentation particulière à adopter
Il y a une alimentation particulière. Alors, vous en parlez souvent ici, et j'ai entendu avant moi un de mes collègues en parlait également, c'est tout ce qui fait du mal, il ne faut pas en manger de trop. Ce n'est pas zéro, mais c'est par exemple les viandes rouges grasses, les graisses saturées animales comme la charcuterie, les produits laitiers en abondance, ça, il faut réduire.
C'est
bon pour le cœur également, c'est bon pour beaucoup de choses.
Mais il faut réduire pour ne pas prendre de poids ou il faut réduire parce que ça ne va pas bien avec la prostate ?
C'est absolument intéressant comme réflexion parce que c'est sur les deux. C'est-à-dire que pour ne pas avoir de problème de prostate, il faut manger moins moins j'aime moins et manger mieux. Mmh. Et donc moins, c'est évident pour ne pas grossir. Et mieux, c'est éviter les graisses saturées animales, pas augmenter les produits laitiers et augmenter les poissons gras, ça a été dit ce matin, augmenter les fruits et les légumes à quelques stars. La star pour la prévention du cancer de la prostate, c'est les antioxydants qui sont contenus dans la tomate. Le lycopène, c'est le colorant rouge.
Allez, du ketchup sur toutes les pâtes
ketchup,
ce midi. Hein.
Oui. Enfin, attention au sucre, mais également les crucifères, notamment les brocolis, qui sont très bons. C'est un autre effet qui est génétique sur la prévention du cancer. Et puis enfin, le jus de grenade, qui est très bien aussi. Un verre par jour est antioxydant.
Vous savez quoi mettre dans votre assiette ce midi et dans votre verre. Je crois que pour prouver ça, justement, il y a une étude dont vous m'aviez parlé il y a quelques temps, qui avait observé des Japonais, des Chinois, qui avaient immigré à San Francisco.
De tout ça.
Voilà.
Absolument.
Qu'est-ce que ça avait montré ?
C'est le départ de tout ça qui a montré que l'environnement augmentait le risque de cancer de la prostate et dans l'environnement, l'alimentation. C'était quoi cette étude ? C'est une étude épidémiologique, donc statistique, sur le risque de cancer dans les populations initiales en Chine et au Japon et la population de ces mêmes personnes qui avaient émigré en baie de San Francisco. On se rend compte que la génération d'après, alors qu'elle a même patrimoine génétique que les gens sur place d'origine, avait beaucoup plus de cancer de la prostate. Et qu'est-ce qui avait changé ? C'était leur alimentation. Ils passaient une alimentation pauvre en graisse, en alimentation à base de burgers, et le cancer doublait, triplait. Le cancer de la prostate triplait.
Et vous avez parlé de l'activité sexuelle. Alors, c'est quoi le rapport avec la prostate ?
Elle a noté, elle n'a pas lâché celle-là.
Le rapport, c'est un jeu de mots à propos, puisque, en fait, il y a eu beaucoup de discussions sur le nombre d'éjaculations. C'est un peu l'idée, au départ, qui était une idée un peu de rigueur, en disant si cet homme a un cancer de la prostate, il pêche par. Enfin, il est puni par là où il a pêché. Et donc, les gens aimaient bien cette idée-là, finalement. Moi qui ne fais pas d'excès, je n'aurai pas de cancer de la prostate. C'est complètement faux et c'est même l'inverse.
Ah bon ?
Il a fallu attendre longtemps pour s'en rendre compte parce que c'est les Américains qui sont plutôt puritains qui considéraient que les gros éjaculateurs étaient les hommes qui éjaculaient plus de 4 fois par mois. En fait, quand vous voulez avoir une prévention du cancer de la prostate, c'est 20 fois par mois.
Et comment donc, ils font les célibataires mois,
vous savez bien.
Ah oui, pardon. Je n'ai pas posé de question.
C'est incroyable.
On va pas arriver à 20, quoi, on a compris.
Okay. Voilà, pour se débarrasser des impuretés, c'est-à-dire que dans le liquide séminal, il y a deux substances qui sont la spermine et la spermidine qui sont potentiellement oncogènes quand elles restent en contact long avec les cellules prostatique. Donc, si on évacue tous ces effluents le plus souvent possible, on a statistiquement, moins de risque de cancer. Après, malheureusement, quand on a un cancer de la prostate, c'est pas de sa faute. Hein. Il faut pas considérer que c'est parce qu'on a mal mangé, bien qu'on n'a pas assez éjaculé ou pas assez fait de sport. Mmh. Malheureusement, il y a aussi la fatalité, mais il y a cette prédisposition à un cancer éventuel peut être augmentée par ces facteurs alimentaires, physiques et sexuels.
Alors, professeur Desgrandchamps, vous ne bougez pas, on n'a pas encore terminé avec vous et avec vos conseils pour protéger, prendre soin de la prostate des hommes. Et oui, on pense à tout le monde dans cette émission. D'ailleurs, on répond aussi à vos questions. C'est le moment, je le rappelle, via Twitter sur le hashtag Europe 1 ou sur notre répondeur au 3921. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio pour cette dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé et plus précisément à la santé des hommes ce midi. En effet, on vous propose un focus sur la prostate et tous les conseils de prévention pour éviter ou repousser les problèmes de ce côté-là au plus tard possible. Alors on en parle avec vous, professeur François Desgrandchamps, vous êtes chef de service à l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Alors Mélanie, on a dit qu'on allait passer aux questions de nos auditeurs, donc c'est parti. À commencer par celle-ci qu'on a reçue sur la page Facebook d'Europe 1, c'est Louis qui habite près de Grenoble qui demande, donc il a entendu parler d'un aliment, on en a parlé tout à l'heure, soi-disant miracle pour la prostate, c'est-à-dire la grenade. Son pharmacien lui a conseillé de boire un verre par jour pour éviter le cancer de la prostate. Alors, est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça, professeur ?
Alors, c'est une vraie tendance, on en a parlé tout à l'heure, ça fait partie des bons aliments parce que ce sont des antioxydants qui réduisent le risque de cancer, ça ne supprime pas le risque, mais ça peut atténuer ce risque, et c'est effectivement la quantité, c'est un verre par jour. Alors,
de jus de grenade. Pas des compléments alimentaires en gélules de grenade.
Pas de compléments, mais du jus pressé de grenade. Alors après, ce sont des données scientifiques qui sont parfois controversées. Ce n'est pas aussi simple que ça, comme vous le soulignez, mais c'est une tendance.
D'accord.
Et la tendance est plutôt à dire oui, c'est plutôt efficace.
D'accord. Bon, on parle de prostate, mais ça intéresse les femmes, puisqu'on a cette question sur le 3921, notre répondeur, une femme qui dit la prostate. Donc, elle s'appelle Véronique, elle s'inquiète pour son mari. Elle dit que beaucoup dans la famille de ce dernier, beaucoup d'hommes ont eu des problèmes, des cancers de la prostate, c'est-à-dire que son mari est plus à risque lui aussi. Il refuse, dit-elle, à 58 ans, de voir le moindre urologue.
Alors, c'est dommage, parce que le fait d'avoir plusieurs cancers dans la famille peut donner un risque potentiel de sensibilité au risque de cancer de la prostate, mais chez tous les hommes, il faudrait doser le PSA,
ans,
qui est un marqueur qui permet de dépister le cancer de la prostate à 50 ans, parce que ça permet d'avoir une référence. Si on a un dosage en dessous de 1 nanogramme par ml, à ce moment-là, le risque de cancer sur les 20-30 années suivantes est minime, donc on est tranquille. Si au contraire c'est au-dessus, il faut simplement surveiller, parce qu'il faut savoir que le cancer de la prostate, malheureusement, tue encore beaucoup d'hommes et qu'on ne guérit pas tout le monde. Et on va guérir les patients qui ont un cancer de la prostate s'ils sont pris tôt. Et la seule façon de les découvrir tôt, c'est ce dosage qui permet d'aiguiller le patient vers des examens complémentaires et l'urologue.
Alors j'ai une dernière question qui nous provient de Julia, 46 ans, qui habite à Paris et qui souhaiterait savoir si les traitements peuvent rendre impuissant. Parce que c'est quoi les traitements? Il faut l'enlever.
Alors c'est tout le problème des traitements des maladies de la prostate, que ce soit la prostate trop grosse, on a parlé, bénigne, ou le cancer de la prostate, c'est la situation de la prostate qui est au cœur des voies urinaires et sexuelles. Et donc, sur le plan sexuel, lorsqu'on enlève une prostate parce qu'elle est trop grosse, on ne l'enlève pas en totalité, on enlève le cœur de la prostate, l'intérieur. Mais ça provoque une éjaculation rétrograde. C'est-à-dire que c'est la prostate qui, en principe, doit se contracter de haut en bas pour chasser le sperme vers l'extérieur. À partir du moment où l'intérieur de la prostate est vidé, l'orifice vers la vessie est très large, et donc le sperme va sortir dans la vessie. Donc il y aura un orgasme, mais sans éjaculation. Donc ça peut perturber la vie sexuelle des hommes. Et l'autre point, c'est l'impuissance. On parle de dysfonction érectile, c'est moins péjoratif. Dysfonction érectile induite par l'ablation complète du cancer de la prostate, quelles que soient les techniques, robot ou pas robot, parce que les nerfs de l'érection sont collés sur la prostate et peuvent être abîmés. Et donc la conséquence de tout ça, c'est qu'on a parlé de prévention primaire d'une certaine façon au départ, en disant comment ne pas tomber malade. Mais après, il y a une prévention secondaire. Comment éviter d'être opéré si c'est pas la peine? Et donc il faut avoir du recul sur les indications opératoires, que ce soit pour une prostate grosse, il ne faut l'enlever que quand vraiment il n'y a pas de possibilité à la fois de médicaments, de rééducation comportementale pour uriner moins souvent, de réduction des boissons. À ce moment-là, il faut effectivement opérer, il ne faut pas hésiter, mais opérer que si c'est à bon escient. De même pour le cancer de la prostate, il y a à peu près la moitié des cancers de la prostate qui sont des formes normales de vieillissement de l'homme, enfin de la prostate de l'homme.
Et qui ne les tueront pas.
Et ce n'est pas la peine d'enlever la prostate. Donc c'est cette prévention secondaire qui est aussi intéressante.
Bien sûr. On a Mireille sur Twitter qui nous demande comment ça se dose la prostate. C'est simple. Hein,
le dosage pour la prostate, c'est le PSA, c'est prostate specific antigen. C'est une substance qui est sécrétée uniquement par la prostate et circule dans le sang, mais c'est pas parce qu'elle est élevée qu'il y a du cancer, et c'est très fluctuant, donc il faut toujours manier ce dosage avec précaution. Ça sert un signal d'attention pour la prostate, mais certainement pas d'alerte. C'est pas parce que le PSA est monté un petit peu, souvent il suffit d'attendre un mois, il aura redescendu.
C'est juste une prise de sang.
C'est une prise de sang simple.
Très bien, merci beaucoup professeur Desgrandchamps d'avoir été à nos côtés ce midi. Merci pour tous vos conseils très pratiques, que du positif pour ces messieurs, comme quoi c'est pas toujours angoissant de parler prostate. Merci professeur.
Bon, à présent Mélanie, il est l'heure. Il est midi 20, c'est le moment de notre chronique vite fait, très bien fait avec vous Jean-Marc Delorme, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui nous allons savoir comment faire les bons exercices pour perdre du poids.
En effet, je vais vous donner quelques clés pour pouvoir faire des exercices et des sports qui vont vraiment vous permettre de perdre du poids.
Alors, ça m'intéresse. Voilà. Donc, et le professeur Desgrandchamps a pris un stylo aussi, un papier, je ne sais pas pourquoi. Allez-y.
Alors tout d'abord, évidemment, ça passe par une alimentation équilibrée, hein, ça on
le sait,
ça
ne
cesse pas de dire. Après, il faut aussi, au niveau de la balance, regarder la silhouette et pas forcément le poids sur la balance, hein, sauf si vous avez un impédance-mètre, parce que vous pouvez avoir une silhouette à fini, puis avec le sport, peser plus lourd. Ouais. Parce que
ou avoir des gros os comme moi. Moi, je dis toujours, c'est les os, qui
donc,
pèsent.
Donc voilà, ça, c'est un peu les recommandations.
Parce que le muscle, c'est lourd. Hein,
le muscle est plus lourd que la graisse. Hein, donc c'est pour ça. Vous pouvez, quand vous commencez à faire du sport, peut-être que vous allez peser un peu plus lourd et pourtant la silhouette va s'affiner. Ça va passer par trois axes. Le premier, c'est bien sûr choisir un sport avec une forte dépense calorique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de travailler des capacités en particulier. On sait que l'endurance et la force sont deux filières qui vont nous permettre de perdre du gras. D'accord. Et puis la dernière, c'est le choix des contractions musculaires. On va voir ça après, pour bien les choisir et que le muscle ne prenne pas de volume.
Alors moi déjà, j'ai une question, Jean-Marc. Alors ça veut dire que si je fais que du cardio, mais quand je dis du cardio, c'est 45 minutes hein, au moins, et pas à fond, hein, mais juste un peu haletante, etc. Mais toujours en pouvant parler. Est-ce que là, je suis en train de perdre du poids?
Alors, vous êtes en train du cardio, ça dépend de ce qu'on fait évidemment, mais effectivement, le cardio, c'est une bonne activité pour perdre du poids. Cela dit, il va falloir poursuivre un petit peu l'effort longtemps, modéré, pour pouvoir taper un peu plus dans les lipides, même si on sait que les deux filières du glycogène et des lipides fonctionnent en même temps. Parce que souvent, on voit sur Internet que le glycogène s'arrête et tout d'un coup, les lipides prennent
Quel sport fait le plus dépenser de calories, tout simplement.
Alors, les stars du sport qui font perdre de la calorie, on a le rameur, 700 calories heure. Donc ça, c'est quand même pas mal.
C'est un peu dur, le rameur. Ouais. Alors, vous n'avez pas autre chose ?
C'est un peu dur.
Mais attendez, en salle, c'est moins dur qu'en vrai.
En ce moment, ce qui est très en vogue, y compris pour les dames, c'est la boxe.
Ça, c'est bien.
Ouais, en force explosive. Donc, on est entre 600 et 800 calories par heure. Donc c'est pas mal, ça fait bien sécher en plus. La corde à sauter, attention, c'est du bondissement, donc il faut être progressif avec ça, mais sinon 800...
Ça coûte pas cher en plus, on peut faire
partout, et ça c'est pas mal. 800 calories par heure, et la course à pied, pareil, pratique, ça va affiner les jambes, etc. Bon. 600 calories par heure, c'est plutôt pas mal.
Enfin moi je vous ai un jour dit en coulisses, Marco, que j'avais marché pendant des mois et des mois, je marchais une heure par jour sur un tapis de course à 6 ou 7, et vous m'avez dit ça sert à rien pour perdre du poids.
Faut y aller un petit peu plus vite, effectivement.
Ah oui, c'est ça. Donc vous voyez, par contre j'ai vu du pays. Hein.
Quelle activité pour perdre de la graisse précisément ?
Alors, pour perdre la graisse, effectivement, comme le disait Julia tout à l'heure, il faut privilégier les sports d'endurance, vélo, facile hein, pour éviter de se choper des grosses cuisses, donc on enroule mais on en fait longtemps, de la course à pied, natation, marche rapide, tout ça, ça va nous permettre non seulement de taper dans les lipides, et en plus il y a quelque chose qui est vraiment chouette, c'est qu'une fois qu'on a sollicité cette filière, elle va se mettre directement en route, et par exemple quand vous regardez la télé avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude et quelqu'un qui a l'habitude de faire les sports d'endurance, vous allez dépenser deux fois plus de calories que l'autre.
Ah, génial. Et puis il y a la force aussi.
Et la force, alors au niveau de la musculation, pareil, ça c'est des intensités qui vont nous permettre de taper dans les réserves de graisse. Donc on retient endurance et force.
Et quand vous dites force, c'est la force du corps, enfin c'est le poids du corps, ou on peut rajouter
C'est de la
du
musculation, voilà, donc le fitness, la musculation, etc., le renforcement musculaire, vraiment, on va avoir une intensité musculaire et c'est ça qui va nous permettre de
taper le gras.
Taper le gras.
On tape
voilà.
le gras.
L'idéal, c'est l'endurance de force, c'est-à-dire l'alliance entre endurance et force, c'est-à-dire poursuivre une intensité le plus longtemps possible.
Mais alors comment être sûr, vous en parliez tout à l'heure au niveau de la silhouette, comment ne pas prendre du volume en faisant
du sport ? Alors, je vais vous donner...
Moi, vous avez dit vélo, moi ça m'a fait un peu peur, j'ai peur d'avoir des gros cuisseaux, quoi.
Alors, le vélo, il faut enrouler, il ne faut pas pousser. Si on pousse, c'est du concentrique, paf !
On risque de se prendre longtemps,
mais pas fort.
Okay.
Alors, je vais vous donner 2-3 trucs qui vont fonctionner à chaque fois. Si on ne veut pas prendre du volume en épaisseur, on va travailler une contraction qui s'appelle la contraction excentrique. Mmh. C'est quoi ? C'est le freinage. Quand vous faites un squat, vous voyez ce que c'est le squat, on se met debout.
Julien en fait un pour ceux qui veulent sur europe1.fr. voilà, hein. En gros, formidable. C'est comme si on était accroupi.
On s'accroupisse et on remonte. Il y a sur ce mouvement, qui est un mouvement très classique, on va descendre lentement pour travailler l'effort excentrique, et puis on va se relever doucement, beaucoup plus rapidement parce que c'est du concentrique.
Ah, elle se lève assez vite là, Julia ? C'est
voilà.
ça qu'il faut faire.
Elle descend lentement,
elle se relève
vite.
Et
voilà.
Hop, on se relève.
Par exemple, donc ça c'est une contraction qui va
affiner. On a pris un mot, voilà. Contraction excentrique.
De freinage donc, et qui va permettre d'affiner les muscles. La pliométrie, c'est le bondissement.
Donc d'accord. La corde à sauter, ça c'est pas mal.
Ouais.
C'est pas mal.
Attention hein, par contre, hein, parce que ça agit beaucoup sur les articulations, donc il faut être progressif hein, mais avec ça, mais c'est très très bien.
Et le gainage.
Et le gainage, ah,
évidemment,
enfin, bien sûr.
Notre ami le gainage.
La star.
La planche là, au sol.
Voilà,
là.
Du renforcement lombo-abdominal. Voilà. Oh. Et avec tout ça, croyez-moi, vous avez un corps de rêve.
Mais ça, c'est certain. Voilà. Moi, je vous crois sur parole.
En 6 semaines.
Oh, en 2 heures, vous avez
semaines,
le professeur des grands
6 semaines, deux fois
Allez.
Par semaine.
On commence, on se donne rendez-vous dans un mois et demi.
Ouais, oui, super. Ouais,
merci
carrément.
Jean-Marc Delorme. On vous retrouve mardi prochain. Vos conseils sportifs, c'est tous les mardis dans Bienfait pour vous. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on se retrouve bien sûr demain dès 11h avec vous, Mélanie, pour une toute nouvelle question.
Alors demain, Julien, on va se pencher du côté des tout-petits avec cette question. Et si en fait, on leur fichait un peu la paix avec les écrans ? Alors pas si évident tout de même quand on regarde les chiffres, 95% des enfants par exemple avec un retard de langage sont trop exposés aux tablettes, télé et jeux vidéo. Heureusement c'est souvent réversible et on va vous expliquer comment vous y prendre.
Et puis il y aura évidemment de nouveaux sujets tendances de la santé, du bien-être. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.